matin, Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, au lendemain de l'interview télévisée du président, au moins entre 1 100 000 et 3,5 millions de personnes ont défilé en France. 903 feux allumés dans les rues parisiennes, 1500 black blocs qui ont été recensés, 148 incidents dans des lycées, entre 119 et 800 000 Paris, dans la seule ville de Paris selon les sources. Est-ce que c'est l'effet direct de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, Gérard Carrérou?
Je pense effectivement qu'on a vécu cette semaine un changement de nature. Cette crise dure depuis plusieurs semaines, on a vécu un changement de nature. Et les deux déclencheurs de ce changement sont le 49-3 à l'Assemblée et les propos qui se devaient apaisants, mais qui ne le furent pas, ils furent au contraire une sorte d'excitant pour une forme de montée en puissance de la rébellion. Et on est passé d'une révolte contre le projet de loi sur les retraites à une révolte intuitu personnée contre le chef de l'État lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'a pas réussi à apaiser et qu'il a provoqué quelque part, on a effectivement tourné le canon vers Macron. Et aujourd'hui, et ça explique qu'on a dit précédemment sur le report du voyage du roi, etc. Hein, il y a un aveu, on dit ça y est, ce pouvoir, maintenant ce pouvoir, il est plus en état de répondre. Ouais.
Voilà. Michel Cotta. Ça fait assez longtemps qu'on s'aperçoit qu'effectivement, tout converge contre la personnalité de Macron. Alors on a vu quelques affiches ou quelques brûlages de tête, si j'ose dire, d'Elisabeth Borne dans les manifestations. Mais enfin, effectivement, c'est inquiétant de voir à quel point le président de la République unique suscite autant d'impopularité. En regardant son discours, franchement, le discours du mercredi.
Catherine... On s'était appelé, oui. On l'avait pas trouvé mal. Et puis, en le relisant, il y a quand même des allumettes par-ci, par-là. En tous les cas, ça a été reçu comme ça.
Oui,
et
enfin,
je veux dire,
reçu.
Il croyait calmer les choses. Et puis quoi, ça a été les 40e rugissant. Alors, et le jeudi soir, dans les manifs, dans toute la France, qu'est-ce qu'on a vu? C'était les jeunes. Ils avaient passé le bac. Ils venaient pour brûler des poubelles avec des mots d'ordre. Non à la retraite. Bon, voilà. Mais je vous signale qu'en 2010, les jeunes, ils étaient descendus dans la rue. Non à la retraite à 60 ans, sans voir que c'est eux qui paieraient pour les vieux, mais bon, peu importe.
Ça, ils ont
donc
pas
c'était
vu,
une sorte de farce. Mais il y a eu les Black Blocs et qui ont fait des choses, et les Black Blocs dont certains venaient d'Allemagne, de Belgique et tout ça. Mais c'est ce climat de violence entretenu par le LFI, entretenu par Mélenchon, qui fait que comme ça, je veux dire, la France c'est un tapis de braise. Alors si on s'ouvre dessus, voilà.
Charles Villeneuve.
Non, mais ce que viennent d'écrire mes camarades, c'est manifestement ce que je résume moi en disant, la donne a complètement changé pour le président de la République. Elle a profondément changé et ce sera très difficile pour lui de lutter contre ça. Parce que c'est constitué de tous les territoires, ça remontait. D'ailleurs, c'est les élections législatives qui avaient donné le coup d'envoi là-dessus. De tous les territoires remonte un front du refus, un véritable front du refus, avec comme point de fixation le président de la République. C'est Macron lui-même aujourd'hui qui est l'enjeu en réalité. Ouais. Alors ce que décrivait Catherine en disant la rue s'est enflammée, etc. Il faut quand même pas oublier que 1500
Black Blocs
radicaux se sont infiltrés dans tous les systèmes et ont adopté, et on l'a vu dans Paris notamment, une tactique qui est très difficile pour les services de sécurité, c'est qu'ils se répartissent à travers toutes les rues, évidemment, qui offrent un matériel de base formidable pour ces agitateurs, c'est-à-dire les ordures qu'on étale, auxquelles on met le feu, et qui permettent de diviser le service de sécurité, qui est obligé de s'émietter et de courir à droite et à gauche, etc.
Au lieu d'avancer en
colonne. Mais bien sûr.
Ouais.
Et donc, et ce sentiment anti-macroniste est devenu majoritaire dans le pays. C'est ça le phénomène politique.
Il est majoritaire
important.
Et c'est entretenu.
Là.
Majoritaire
oui.
Et entretenu d'une manière permanente.
Bien sûr,
par
mais
les
ça,
insoumis,
mais
bien
on l'a
sûr.
Dit. Il y a un contorsionniste de toute façon qui est déjà passé de tous les côtés du système de l'hémisphère politique. C'est Mélenchon qui l'anime. Mais en même temps, comme l'a souligné Catherine, c'est que le bac est passé maintenant et que de toutes les villes universitaires notamment s'agitent
pour vous, Mélenchon, c'est le marionnettiste, c'est lui qui
Non, je pose la question. Moi, je suis pas un complotiste. Non, pas du tout. Je dis pas qu'il est le chef du système. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qui, alors que le 49-3 n'a pas été fait pour faire passer une réforme super antipopulaire, et on l'a fait passer au forceps. C'est le déclencheur. C'est ça le véritable déclencheur.
Donc moi je pense que ça pose vraiment des problèmes, alors, justement institutionnels quand même. Le 49-3 a
été utilisé 100 fois. C'est pas une crise institutionnelle, pour l'instant c'est une crise politique.
Je veux dire que le 49-3... en soi, peut être utilisé, mais effectivement, ça veut dire que les gens ne comprennent plus qu'on puisse faire un truc comme ça. Ils comprennent plus qu'au dernier moment, il y ait une motion qui empêche la vraie discussion d'aller jusqu'au bout, etc. Mais je vous rappelle qu'au Parlement, on a plus parlé de cette retraite. Il y a eu plus d'heures passées à parler de cette retraite, malgré que en 2010. Bon, ça c'était
avec surtout des obstructions. Donc, il n'y avait pas un débat de fond.
Hein. Il est évident. Moi, je trouve qu'il y a quand même deux lignes qui se croisent. Il y a la ligne effectivement anti-Macron. On a l'impression que maintenant, quoi qu'ils disent, bon, ça peut peut-être s'arranger, mais rien. Et puis il y a la ligne, cette sorte de refus de toute autorité institutionnelle. Moi, je trouve généralement les problèmes institutionnels, on se dit, on se les pose quand c'est fini, quand on n'a rien à dire, les problèmes institutionnels, ils se posent vraiment, je trouve.
Moi, je pense qu'il faut toujours reprendre les choses au point de départ, ce qui a changé. On nous avait un peu dit, le président de la République va parler quelque part, quand on dit le président va parler, et on s'attend à un discours plutôt d'apaisement et de recherche d'une voie de sortie de crise. Que ce qu'on a entendu dans cette interview,
à 13h,
puisque
mercredi.
C'était qualifié d'interview à la télévision mercredi. Dans cette interview, donc je vais aller dire pseudo-interview, dans cette vraie interview, il a dit quoi ? Mais il a dit des choses extraordinaires. Il a dit en gros, ce qui se passe à Paris, c'est comme le Capitole, c'est-à-dire qu'on voyait les hordes de Trumpistes qui sont allés casser. Attendez, personne jusqu'à présent, et Dieu à Dieu ne plaise, n'est allé casser l'Assemblée nationale ou le Sénat ou l'Élysée.
On a cassé
l'Arc de Triomphe, je te rappelle. Il y a des comparaisons qui sont des appels quelque part à aggraver
factieux,
les situations.
Les factieux.
Pourquoi pas les factions, les factieux et les fascistes. Enfin, on a entendu des choses, plus des mensonges. Mensonges et honté présidentiel lorsqu'il dit les syndicats n'ont rien proposé, ils n'ont pas proposé d'alternative. Ce qui est faux, et ce que d'ailleurs Laurent Berger, qui est plutôt un calme, lui a répondu vertement là-dessus. Enfin, donc ce discours non seulement n'a pas apaisé, il a jeté les ferments de ce qui s'est passé à la manifestation. Ouais. C'est-à-dire grossi, et avec l'éruption. Avec l'éruption des jeunes, les manifestations organisées ont pris une nouvelle, effectivement, dimension.
Une pause dans les grandes voies. Je vous signale également que demain, dès 10h sur Europe 1, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous, entourée de Cécile Cornudet des Échos, Mathieu Bock-Côté. Sonia reçoit ce dimanche le président de Reconquête, Éric Zemmour, qui publie « Je n'ai pas dit mon dernier mot » aux éditions Rubin Prêt, le grand rendez-vous. Europe 1, CNews, les Échos, tous les dimanches, de 10h à 11h. Le retour des grandes voies dans un instant.
Les grandes voies d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Kerrerou et Charles Villeneuve, quelques chiffres. 76% des Français ne s'estiment toujours pas convaincus après ce 13h d'Emmanuel Macron mercredi dernier. 67% des Français souhaitent que le mouvement se poursuive contre ce projet. Et malgré une inquiétude face à la violence pour 72% d'entre eux. Enfin, un petit dernier. Opinionway, 8 Français sur 10 souhaitent pouvoir contribuer au changement des règles du jeu politique, autrement dit contribuer à une refonte des institutions. On parle souvent de 2010, Charles Villeneuve.
Oui, non, mais ce qui change entre 2010, au moment où Nicolas Sarkozy propose cette réforme pour les retraites, de faire passer de 60 ans à 62 ans le départ à la retraite. C'est qu'à l'époque, il y avait 53% de Français qui jugeaient cette réforme acceptable. Et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 36% qui considèrent que c'est acceptable. C'est-à-dire qu'il y a une inversion complètement de la pyramide d'une majorité et qu'on n'en a pas tenu compte. Dès le départ, on avait ce chiffre. On savait qu'il allait avoir une hostilité considérable de porter le départ à la retraite à 64 ans. Et ça, c'est la première des erreurs. L'erreur de base, en plus du 49.3, on veut faire passer au forceps une réforme qui est impopulaire.
Oui, mais si Nicolas Sarkozy, il avait quand même un sens politique, parce que Raymond Soubi, son conseiller, lui disait « allons jusqu'à 63 ans ». C'est lui qui a dit « non, 62 ans, après ça serait difficile ». Alors c'est vrai qu'au départ, les Français disaient « il va bien falloir travailler plus ». Mais les Français sont les Français, vous voyez, ils aiment l'ordre, ils sont pour, mais dès qu'il y a des manifs et de la violence, 70% étaient pour les manifs. C'est toujours comme ça, les Français. Mais il n'empêche la différence. Les deux différences qu'il y avait à l'époque. C'est d'abord que lui pouvait se représenter, alors que là, pour Macron, il ne peut pas se représenter. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait une majorité. Et à l'Assemblée, il y a quand même eu au vote 336 voix pour, 233 voix contre, ce qui n'empêchait pas Jean-Marc Ayrault de parler de forfaiture, de république abîmée. Ça a été, voilà. Bon, ça a été voté au Sénat. Après le vote du Sénat, les raffineries ont été bloquées pendant 17 jours, il ne faut pas l'oublier. Et Madame Aubry demandait à Sarkozy de ne pas promulguer la loi et qu'il faudrait recommencer la discussion. Donc vous voyez, c'était quand même pas facile. Mais la différence, c'est qu'il avait la majorité.
Voilà. Ce qui fait une crise politique, en plus, une crise politique particulière. Alors certains disent crise de régime, mais bon, disons une crise politique très importante actuellement. C'est effectivement, et Catherine l'a esquissé, c'est que les pouvoirs de la Ve République ont toujours eu une majorité dans les assemblées. Attendez, il faut le redire, parce que la Ve République, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne sur un mode binaire.
Oui, mais il faut être clair, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la majorité, ça ne fonctionne pas.
Alors, on est en train de découvrir que quand il n'y a pas de majorité, ce qui est le cas depuis un an, et à ce moment-là, la République ne fonctionne plus. Et il y a un problème, où est la légitimité effectivement populaire. Est-elle dans une assemblée qui est où la majorité n'est pas une majorité mais une grosse minorité, est-elle dans la rue?
La majorité, elle a été élue par le peuple.
Les jeunes ne reconnaissent pas. C'était, on disait, nous, on était dans l'ancien monde avec ce 49-3. On se souvient de Rocard, on se souvient d'autres. Mais là, nous sommes arrivés, les jeunes générations, pas seulement les jeunes de 18 ans, les nouvelles générations considèrent que le 49-3 n'est pas un acte constitutionnel, c'est un acte de brutalité à l'égard du peuple. Et si vous ne voulez pas intégrer ça dans vos raisonnements...
Mais c'est Mélenchon qui le leur dit.
Il n'y a pas que Mélenchon qui le pense.
Non, mais enfin,
et moi, je ne pense pas comme Mélenchon, vous avez peut-être rassuré.
Tu n'as pas toujours pensé comme ça.
Mais ce que je veux dire,
mais on a changé. On a changé de monde. Je suis absolument sûr que de ce point de vue-là, d'ailleurs, moi, j'étais contre l'engagement du 49-3 en me disant qu'après tout, il n'y aurait pas eu de 49-3, ça aurait peut-être été une porte de sortie. Mais je pense que quand on dit qu'ils ne font pas ça par plaisir... Donc il y a quand même, effectivement, ça va plus loin en plus notre crise. Parce que notre crise, elle n'est pas seulement que Macron n'a pas de majorité. Le problème est qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et qu'on ne voit personne se dessiner à l'horizon. Et donc pour moi, ça accentue tout à fait l'impression d'inquiétude et d'angoisse.
Personne sur laquelle il y aurait un consensus.
Ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a fini d'être dans la bipartisation et qu'on est effectivement dans une forme de triple polarisation avec deux extrêmes. C'est très difficile de jouer. Et s'il n'y a pas d'alliance, à un moment donné, entre le corps intermédiaire, alors il est foutu. Oui.
Charles Villeneuve.
Non mais rappelle-toi, Michel, Catherine, Gérard, rappelez-vous que nous étions stupéfaits qu'au moment des élections législatives qui suivaient les présidentielles, le président a disparu. Il n'a pas fait le boulot de base.
Il n'a pas fait le service minimum.
Les élections législatives.
Il n'a même pas fait campagne pour la présidentielle.
Et le résultat, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Mais non, mais non. Il a pris le vote utile, on ne voulait pas de Le Pen, pour un vote d'adhésion. Et après, il n'a pas changé. Il avait dit, on va faire une nouvelle méthode. Le soir de son élection, il a dit, on va faire une nouvelle méthode. Il n'y a pas eu de nouvelle méthode. Alors aujourd'hui, on arrive qu'il y a une crise politique, une crise sociale, une crise morale, parce que les gens disent, c'est la décadence, il n'y a personne pour remonter. Et aujourd'hui, il y a un seul personnage qui est un peu, qui peut avoir un moment de gloire et qui est un peu le roi au-dessus du président, c'est Fabius, au Conseil constitutionnel.
Et on attend sa décision.
On demande ce qu'il va faire. Ouais. Parce que soit il dit tout est d'équerre, il n'y a plus rien à dire. Et dans ce cas-là, Laurent Berger a dit dans ce cas-là, on se calme et ça se calmera. Soit il dit, il y a des petits trucs à changer et il donne son avis favorable pour le réforme d'initiative, comment on appelle, le référendum populaire. Bon, le référendum populaire, il faut...
Les citoyennes, le RIC.
Mais il faut un an pour le... Alors, la question juridique, est-ce que pendant cette année-là, la loi s'applique ou pas?
Et est-ce que les violences continuent pendant un an?
Est-ce que les violences continuent, voyez? Donc, il peut suggérer aussi au président, article 10, non, il faut recommencer le débat, il faut qu'il y ait un vrai débat à l'Assemblée. Donc, il a entre ses mains l'avenir de Macron.
Oui, non, mais il l'a d'autant plus qu'il a tous les moyens de supprimer cette réforme, en réalité. Puisque cette réforme a été accolée au budget de la sécurité sociale avec des débats limités. Et ces débats limités sont inconstitutionnels. Il a les raisons d'enterrer cette réforme.
On verra ce qu'il dit quand même, attendons-le.
Simplement, pour ajouter à ce qu'a dit Catherine sur le référendum d'initiative citoyenne, pour que ça tienne et que ce soit examiné et que ça ait lieu, ce référendum, il faut qu'au départ, on rassemble 10% du corps électoral.
5 millions.
C'est-à-dire 4 700 000 électeurs qui signent justement ce référendum d'initiative citoyenne. C'est quand même, peut-être on peut y arriver, mais c'est quand même pas facile.
10h37, une pause et on revient avec les grandes voix. Pardon de vous avoir coupé, ma chère Catherine, à tout de suite.
10h, 11h,
les grandes voix d'Europe 1.